Qui est donc cet homme, Jésus? Nous le savons, nous, bardés de nos connaissances catéchétiques, voici près de 2000 ans que nous lisons ces textes. Nos amis juifs étaient, au début de notre ère, dans la même situation que nous. Ils savaient tout de la Torah, de la loi et des prophètes. Ils savaient tout du Messie envoyé de Dieu, qui il serait, ce qu'il ferait. Ils le savaient même tellement que nombre de fois ils se sont trompés, croyant certains étant le Messie et se rendant compte que non, décidément ça ne pouvait être lui, et passant à côté de Jésus en ne le reconnaissant pas comme Messie. Et cependant, nous avons vu déjà que Jésus agissait comme un prophète, mais avec un décalage. Il ne disait pas les mots que les gens attendaient d'un prophète. Par exemple, il posait le message d'un salut offert à l'extérieur d'Israël, non seulement réservé au peuple juif. Ça ne leur plaisait pas. Ils voulurent même le tuer. Et puis, à Naïn, il a montré des actes de guérisseur. Et au travers de lui, la puissance de Dieu est arrivée, l'a rendu compatissant, a refusé les pleurs d'une veuve perdant son fils unique. Et Dieu a agi au travers de lui, en réveillant, en revivifiant cet homme, en posant un signe de résurrection. Là, ce geste a été accueilli par la foule et a été répandu dans la Judée tout entière et dans les environs. Les gens en disant « Dieu a rendu visite à son peuple », les gens en disant « Cet homme est prophète ». Ce n'est pas Luc qui disait « Jésus est prophète » dans le texte. Ce n'est pas Jésus qui disait « Je suis prophète » dans le texte. Mais c'était les témoins qui faisaient circuler cette nouvelle. C'est déjà un début de reconnaissance de la condition de prophète de Jésus. Ce sont donc les témoins de cet acte de compassion vécu à Naïn qui ont réagi ainsi. Que faisaient d'autres les prophètes? Ils pratiquaient des exorcismes. Un exorcisme, c'est une bataille, un duel entre des démons et l'exorciste. Il y a tout d'abord rencontre entre l'esprit malin et l'exorciste. Il y a une bataille qui est une sorte de duel magique entre les deux. Et puis, l'exorciste gagne. Il y a donc l'expulsion du démon de celui qu'il possède, mais pas n'importe où, ce démon se reporte sur une autre victime et tout ceci se trouve devant des témoins. Jésus, de sa propre initiative, va en terre étrangère. La Décapole. Si vous regardez une carte, la Décapole, ce sont 10 villes qui se trouvent à l'ouest de la Galilée, qui ne sont pas du tout en ennemis d'Israël, il n'y a pas de conflit, et qui ont été longtemps, comme Israël, sous la domination assyro-babylonienne. C'est-à-dire que autant Israël que ces villes-là sont culturellement marquées par la culture assyro-babylonienne. L'homme qui se présente devant Jésus aurait été diagnostiqué dans le registre des médecines grecques ou latines de cette époque comme fou. Alors que dans le registre des médecines babyloniennes, mésopotamiennes, il était considéré comme possédé par des démons. Il faut aussi savoir que la notion mésopotamienne de présence de démons associe ces démons la plupart du temps, et pas la plupart du temps, sans arrêt, associe ces démons à l'exécution d'une punition décrétée par les dieux sur la personne qui est possédée. Ce qui veut dire que les démons n'existent pas comme ça et peuvent tomber sur n'importe qui. Les démons ne sont pas des personnes autonomes. Elles sont toujours des personnes envoyées par des dieux dans cette notion mésopotamienne. Alors vous pensez bien que Jésus, là, en faisant ce geste d'aller dans la Décapole et en se trouvant, en posant le pied dans ce pays, se trouve en plein dans une situation d'impureté totale, selon la loi juive. Tout d'abord, il est à l'étranger. C'est déjà une impureté. L'homme qui vient vers lui habite dans des tombeaux. Les tombeaux, ce sont des lieux de mort. Encore de l'impureté. En plus, il habite dans des tombeaux, mais lui est habité d'un grand nombre de démons dont le nom Légion n'est pas sans rappeler les légions romaines. Encore de l'impureté. Surtout lorsque l'on sait que plusieurs légions romaines, en plus de celles qui étaient en occupation, avaient comme emblème des sangliers ou des porcs. On est encore dans l'impureté selon la loi juive. Et c'est là que Jésus rencontre ce démon multiple. Le texte nous dit que le démon se manifeste car Jésus enjoignait le démon de sortir du possédé. Donc c'est Jésus qui a pris l'initiative. L'homme lui-même ne parle pas à Jésus qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Ce sont les démons qui l'habitent qui interpellent Jésus. L'homme n'est pas maître de ses paroles, il est possédé. Il crie tout d'abord et il tombe devant Jésus. Sa voix est forte, comme si elle n'était pas la sienne. Et les paroles sont adressées par la force démoniaque, et cette force démoniaque connaît Jésus, puisque c'est elle qui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » La bataille entre le démon et l'exorciste a commencé. Je vais pouvoir, excusez-moi cette comparaison, à la manière d'un commentateur sportif des Jeux Olympiques actuels, lors de combats, vous faire la description de ce combat. Jésus a commencé à enjoindre les démons de sortir de l'homme possédé. Les démons répondent en criant et en faisant tomber l'homme, et en suppliant, et en appelant Jésus par le terme « Fils du Dieu très haut ». Décliner le nom de l'autre, c'est avoir du pouvoir sur lui. Et pour les démons, ce serait bien bénéfique. Ils pourraient retrouver un petit peu de force, car ils se sont montrés en infériorité dès le départ, en criant, en tombant. Et ils se montrent encore plus en infériorité en négociant, puisqu'ils disent « ne me tourmente pas, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Inversement, Jésus est en position de force, puisqu'il va faire dire au démon son nom. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui dit son nom, c'est il le lui fait dire. Et il somme l'esprit impur de quitter l'homme. Donc en termes de pugilat, de bataille, on remarque que Jésus a pris les choses en main, que c'est lui qui a toute autorité, qui commande, qui ordonne, alors que les démons, eux, sont en infériorité, supplient et négocient. Alors on peut se poser la question de cet emploi « fils du Dieu très haut ». Et on constate dans les évangiles que c'est très très rarement utilisé. Et dans l'évangile de Luc et dans le livre des Actes, ce n'est utilisé pratiquement que par le diable, lors de tout premier texte qui est la tentation, et que par des démons, et pratiquement pas ou jamais par des disciples de Jésus. C'est-à-dire qu'ils s'en servent comme d'un nom magique qui donnerait des pouvoirs. Et Jésus ne demande pas ça à ses disciples. Jésus demande à ses disciples que s'ils le reconnaissent comme étant fils du Dieu très haut, ils le reconnaissent dans leur vie par leurs actes et par leur manière de retrouver les autres et de vivre avec les autres, et par leur louange à Dieu, mais certainement pas par un moyen de tromperie, comme le dit le troisième commandement. Et d'ailleurs, ni le diable ni les démons n'arrivent jamais à quoi que ce soit en invoquant cette reconnaissance. Le passage des Actes sur Simon le magicien montre bien qu'il ne s'agit pas là d'une puissance magique qui découlerait de la prononciation du nom de Jésus. Il y a d'autres passages dans les Actes qui le confirment. C'est le rappel du commandement de ne pas prononcer le nom de Dieu dans le but de tromper. C'est ce que dit le commandement. Il ne dit pas « ne prononcez pas le nom de Dieu ». Il dit « ne prononcez pas le nom de Dieu dans le but de tromper ». De tromper celui qui entend. De se tromper soi-même, peut-être. Mais surtout en trompant celui qui entend, de dire qu'on est à la place de Dieu. Simon, qui a suivi les disciples, qui a été baptisé, aux paroles que lui répond Pierre, rude, dure, semble se rendre compte de l'énormité de sa demande. Il n'est pas droit le cœur de l'homme qui trompe l'homme en invoquant le nom de Dieu juste pour son propre orgueil, sa propre puissance. À dire vrai, j'ai le sentiment que celui qui fait ceci n'a justement aucune foi en Dieu. Parler de ce que l'on perçoit de Dieu, c'est infiniment important et grave. Cela doit être fait avec crainte et tremblement, de peur de ne faire tomber, chuter, éloigner un enfant de Dieu loin de lui. Nos paroles, vous le savez, lorsque nous parlons aux gens, touchent le cœur des autres. Elles peuvent les choquer, elles peuvent les heurter, les mener dans l'angoisse et les éloigner de Dieu. Nos paroles sont graves et ce commandement est aussi important que les 9 autres. Est-ce pour cela que ce nom donné à Jésus n'est pas utilisé par d'autres que les démons et Satan dans l'évangile de Luc, peut-être? S'il était possible d'en avoir conscience et crainte, s'il était possible de ne pas hurler à la gloire de Dieu alors qu'on tue des gens, les guerres de religion n'existeraient certainement plus. Les étapes de l'exorcisme suivent. La bataille se termine par l'expulsion du démon, sa prise de possession d'une autre victime qui est un troupeau, et l'anéantissement de cette autre victime avec le démon intérieurement à elle, dans les abîmes, dans la mer, noyée. Et ce n'est encore pas un anéantissement total. Ce n'est pas encore la mort de la mort, puisque la mort des démons a entraîné la mort d'autres êtres qui étaient les porcs. Donc, ce n'est pas final, et nous le savons, la mort de la mort aura lieu à la résurrection de Jésus. Alors le lecteur de Luc, comme nous, tout comme les disciples présents aux côtés de Jésus, nous avons là à comprendre que la libération apportée par Jésus touche chaque homme en son individualité, comme cet homme-là, et non un groupe ou un peuple dans sa globalité. Cet exorcisme a eu des témoins qui prennent peur devant leurs troupeaux possédés et noyés, on peut le comprendre, mais aussi qui prennent peur, et le texte nous le dit, devant la libération de l'homme qui était possédé. Angoissés devant cet acte puissant, ils vont supplier, tout comme les démons avaient supplié Jésus. Ils vont le supplier de s'éloigner. Et là encore, est-ce que cette peur de la puissance divine n'est pas déjà un début de reconnaissance? La nouvelle chez les Jaranéens se répand et elle dit même que l'homme est sauvé. La première fois qu'on a le terme de salut dans ce texte. L'homme est à nouveau saint de corps et d'esprit. Il est habillé, ce qui signifie qu'il est civilisé. Il adopte même la position du disciple chez Luc, assis au pied de Jésus. Et il demande de rester auprès de lui. Mais Jésus le rend à sa culture. Il le rend à sa vie intérieure. Il n'est pas question pour lui de l'enrôler comme peuvent le faire certaines sectes. Il lui dit simplement de raconter sa rencontre avec Dieu. Avez-vous noté le décalage ? Jésus dit à l'homme de raconter sa rencontre avec Dieu et l'homme va témoigner de sa vie, de sa rencontre avec Jésus. Il s'est approprié ce qu'il vient de vivre avec Jésus, il le proclame et il entre dans une démarche de foi qu'il n'avait pas du tout avant, puisqu'il ne savait pas, il était en terre non juive. Il n'y a pas de discours théologique, seulement un témoignage existentiel. Il y a dans son message comment sa rencontre avec Dieu, sa foi, est la forme d'une reconnaissance, non pas d'une supplication, et comment elle le met cette foi sur le chemin du salut. Et Jésus repart. Il n'est pas venu pour évangéliser la décapole, il est venu avec ses disciples pour rencontrer un homme, le délivrer de sa maladie. Je dis sa maladie plutôt que ses démons, quelle importance. Que Jésus se trouve en terre de culture mésopotamienne ou juive, ou en terre de culture grecque ou latine, il optera pour travailler dans le sens de ce que peuvent comprendre les gens. N'est-il pas plus important de montrer que la parole de Dieu se soucie peu des rites et des croyances, mais qu'elle agit, comme le disait Jean, de l'esprit, qu'elle agit là où elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Alors, qui est Jésus ? Un guérisseur, un thaumaturge, un prophète, un exorciste, oui, tout cela en même temps. Mais se profile une énorme différence entre lui et ceux qui exercent toutes ces fonctions. Que fait-il, lui, de plus ou de différent ? À chaque humain, individuellement, il ouvre la possibilité du salut. Qu'est-ce que le salut ? Je ne vais pas traiter maintenant, je ne pourrai pas d'ailleurs, car il y existe des tonnes de livres pour essayer de définir le salut, et je ne suis pas plus savante que tous ceux qui les ont écrits. Et puis il faudrait au moins une vingtaine de prédications, donc j'arrêterai là. Je remarque simplement que le salut est lié à la foi de l'homme. Dans le cas présent, la foi n'était pas présente dans cet homme. Il y a eu guérison, il y a foi, il y a ouverture de chemin sur le salut, pour le salut. Qui est Jésus ? Plus que guérisseur, prophète ou exorciste, il est celui qui rend la vie à qui en était exclu, celui qui rend l'homme à sa vie, celle en société tout simplement. Il est passeur d'une vie juste, biologique, à la vie selon l'amour de Dieu, celle de l'esprit, du cœur, de la construction d'un monde offert à tous, et ceci gratuitement, sans rien lui demander en échange. Amen.